OK, maintenant, on va parler avec l'excellent analyste en hockey pour TSN. Et évidemment, vous le voyez à RDS à l'occasion. C'est l'ancien de la région de Québec, un gars qui vit à Buffalo maintenant. La fierté du Lac-Saint-Charles, Martin Biron, qui est au téléphone. Salut, Martin!
Ben, je pense que la fierté de Lac-Saint-Charles, c'est peut-être mon frère Mathieu, mais il faut accepter le nom pour aujourd'hui.
OK, juste pour aujourd'hui. Parfait. Martin, évidemment, il y a eu 5 matchs enlevant hier. Je pense que le moins enlevant, ça a été Vegas contre San Jose. J'ai l'impression que Vegas, les gars avaient l'air d'être dans une période de mononucléose. Hier, San Jose était tout seul sur la glace, mais les 4 autres ont été vraiment le fun. Mais je veux qu'on s'intéresse ce soir. On reviendra à Vasilevski et Bobrovski et tout, là. Mais je veux que tu me parles de Jordan Binnington. Il est arrivé au mois de janvier. Il avait gardé une game à vie dans la Ligue nationale il y a 25 ans. Il a complètement transformé les Blues de Saint-Louis. Puis hier, à Winnipeg, dans un aréna où c'est difficile de gagner, il avait l'air d'un vétéran de la Ligue nationale tellement il a été bon.
Oui, puis quand tu regardes le match hier là, entre les Jets et les Blues, les Jets ont complètement dominé le match durant les deux premières périodes.
Exact.
C'était jusqu'au début de la troisième. Patrick Laine a frappé le poteau en début de troisième période. Binnington a été chanceux un peu sur le lancer de l'année. Il a frappé le poteau de son côté droit. Et suite après ça, Saint-Louis a marqué et ont contrôlé le reste du match. Mais tu as raison. Jordan Binnington était la seule raison pourquoi les Blues étaient encore dans le match. Il a fait 2-3 arrêts avec sa mitaine. Moi, j'adore la mitaine et le style de Jordan Binnington. Il garde la mitaine haute et elle ne baisse jamais. Les joueurs pensent que ils peuvent le battre du côté de la mitaine parce que la majorité des gardiens de but vont baisser leurs gants lorsque le lancer s'en vient et après ça, se doivent de remonter. Des fois, ils sont pas assez vite pour remonter le gant. Un peu comme Marc-André Fleury fait, Carey Price le fait. C'est comme s'il donne le trou du côté de la mitaine et après ça, le vol. Lui, Jordan Binnington, il met son gant dans le haut et il laisse là. Et hier, il a volé là, les Jets à peu près 4-5 fois avec la mitaine. Il a volé Mark Scheifele à la fin du match avec à peu près 15 secondes à faire. Il était vraiment là, le joueur le plus dominant sur la patinoire.
Martin, il n'y avait pas d'attente envers lui quand il est arrivé. Il a complètement changé la saison des Blues. Il arrive au premier match des séries. Il a l'air d'un vétéran. À partir de quel moment il va sentir une pression de performer si ce n'est pas déjà fait? Puis à partir de quel moment, toi, comme analyste hockey, comme ancien gardien de la Ligue nationale, tu vas pouvoir me dire, « Hey Dan, lui, là, c'est pas un feu de paille, il va avoir une belle carrière. »
Je te le dis que c'est pas un feu de paille parce que je l'ai vu, je l'ai regardé beaucoup cette année parce que j'étais vraiment intéressé par les Blues de Saint-Louis. Premièrement, un de leurs choix de première ronde dans l'échange de Ryan O'Reilly s'en vient au Sabres de Buffalo et moi, en faisant l'analyse des matchs des Sabres, alors je regardais beaucoup ce que Saint-Louis, ce que ça allait donner cette année. Et j'aime beaucoup leur équipe. Puis en début de saison, je comprenais pas pourquoi il était dernier dans la Ligue nationale. Écoute, c'était vraiment un début de saison misérable, mais c'était dans le filet. On a bien vu que Jake Allen, dans les dernières saisons, c'est un gars qui a de la misère à rester constant dans le filet. Il fait un bon match, deux mauvais matchs, deux bons matchs, trois mauvais matchs. C'est difficile pour une équipe d'avoir du succès comme ça. Et avec Jordan Binnington, ils ont trouvé une stabilité dans le filet incroyable. Un gars qui n'a pas l'air là, de partir avec les émotions du match et de rien. Et c'est pour ça que je pense que ça sera pas cette année qu'il va sentir la pression. Peut-être l'année prochaine, d'arriver là avec les Blues de Saint-Louis, peut-être le gardien de but numéro 1 en début de saison, et là, tu as un peu plus de pression. Mais cette année, écoute, il est arrivé en milieu de saison, et là, dans les séries, il joue vraiment là du hockey comme quand on jouait avec nos chums dans la rue. C'est fun, c'est relax. Alors, d'après moi, c'est sûr que si les Blues se rendent en finale de la Coupe Stanley, il va y avoir de la pression sur Jordan Binnington. Mais quand même, je pense que la vraie pression va être sur ses épaules l'année prochaine, en début de saison.
OK. Tu nous as toujours dit, de toute façon, on va attendre l'an prochain, mais tu nous as toujours dit en nombre depuis les années où on se parle, on ne sait jamais si un gars peut être numéro un tant qu'il n'est pas numéro un.
Oui, mais Binnington, il a été numéro un cette année, vraiment. Là,
non,
quand
non,
tu dis,
OK.
Là,
ouais, à la fin, oui.
Il a joué... Okay. La majorité des matchs depuis le temps des fêtes, là, c'est lui qui était le numéro un.
Okay.
Et tu vois quand même qu'est-ce qu'il peut te donner. C'est sûr que okay. y a une différence en jouer 30 matchs et en jouer 65.
Oui.
Mais quand même, le rendement qu'il a donné, moi, je pense que Bennington a donné les airs là, d'un gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale.
OK, parfait. Ben Bishop, moi, je ne suis pas un grand fan de Ben Bishop parce qu'au-delà de ses 6 pieds 7, il est tout le temps blessé. Puis j'ai de la misère à me convaincre que c'est un des meilleurs de la Ligue. Mais cette année, il a montré des bons chiffres. Et hier, contre Nashville, il était bon aussi.
Oui, mais Ben Bishop, là, c'est un gars un peu bizarre dans le filet. Tu sais, c'est un énigma un peu parce que oui, il est grand, oui, il est gros, mais il bouge pas. Il bouge jamais. C'est pas un gars acrobatique, un gars athlétique. C'est un gars qui se sert de son corps, de son physique pour faire les arrêts. Et comme tu le dis, c'est frustrant parce que il est toujours blessé. Il était blessé avec le Lightning de Tampa Bay pendant des matchs de la finale de la Coupe Stanley où on a vu Vasilevskiy contre Chicago il y a 4 saisons de ça. Pour moi, je pensais que c'était une erreur de changer Bishop parce que je trouve que c'est un très bon gardien de but, mais le Lightning savait qu'en Vasilevskiy, il avait un des meilleurs gardiens de but au monde et il était jeune et il était un peu plus durable que Ben Bishop. Alors, ils ont fait l'échange pour l'envoyer à Los Angeles l'année passée. Mais tu regardes ça, tu peux pas ne reprocher rien à Ben Bishop là, lorsqu'il est dans le filet. C'est un gars qui est très technique, qui n'a pas de l'air un gars à être frustré ou rien. Il joue la game là assez constant et il est tellement bon avec la rondelle. Il aide ses défenseurs durant la game. Alors, si tu es un coéquipier ou un défenseur, tu veux vraiment essayer de protéger ton gardien de but pour pas qu'il se blesse, mais quand même, tu te dis, c'est un gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale qui a eu du succès avec le Lightning, alors pourquoi pas avoir du succès avec les Stars aussi.
OK, Martin, Robin Lehner, qui joue avec les Islanders, tu l'as connu à Buffalo. C'est un gars qui a surmonté des épreuves personnelles. C'est un gars qui a mis de l'ordre dans sa vie. Mais cette année, sincèrement, c'est un gardien métamorphosé. On le reconnaît pas. Puis hier, il a encore eu son mot à dire. 41 arrêts dans la victoire en prolongation contre les Pingouins.
Oui, ben, ce que tu vas avoir de Robin Lehner, c'est que tu vas avoir cette année un peu plus de stabilité. Il a simplifié là, sa structure et sa technique. Il est un peu plus profond, ce qui l'aide sur ses déplacements latéraux parce que c'est pas un rapide à se déplacer là latéralement dans son filet. Alors, lorsqu'il est un peu plus profond dans sa cage, c'est plus facile de se déplacer. Il va toujours te donner un ou deux mauvais buts là durant une séquence de 3-4 matchs où que tu commences à te poser des questions. Écoute, hier, c'est le but à Phil Kessel, je crois, c'est un lancé entre les jambes et tu dis, ah, peut-être que c'est le mauvais but que tu ne dois pas donner en séries éliminatoires. Mais si tu te reprends avec des arrêts solides et que tu donnes la chance à ton équipe de rester dans le match, alors tu peux l'oublier. C'est pour ça qu'hier on dit Robin Lehner, quelle performance, mais quand même, il a pas aidé son équipe en début de match lorsque les Islanders dominaient les Pingouins. Écoute, un but 30 secondes en début de match, s'il y avait un hors-jeu, il score tout de suite une minute après ça. Il y avait un début devant de 2-0 et là, Robin Lehner donne ce but-là à Kessel. Tu te poses des questions, mais le système de jeu avec les Islanders et Barry Trotz comme entraîneur est excellent et ils ont vraiment frustré les Pingouins hier et Robin Lehner est une partie de ça aussi.
OK, Martin, tu as joué longtemps dans la Ligue nationale. Comment on fait, nous, les amateurs, pour essayer de trouver si les résultats d'hier, parce qu'il y a eu 5 matchs hier, il y a eu quand même beaucoup de surprises, comment on fait pour voir si le match d'hier va donner une tendance à la série ou si finalement l'équipe la plus talentueuse va revenir et va gagner la série?
C'est quand j'étais un petit kid là, dans la région de Québec, on écoutait les Nordiques, mon père disait toujours les matchs les plus importants dans une série, c'est les matchs impairs. 1, 3, 5, 7. Et moi, j'aime pas regarder le premier match comme... C'est sûr que le premier match est un match important, mais quand même, les deux premiers matchs, c'est la partie d'échec. On s'étudie, on apprend les tendances. C'est le match numéro 3, moi, qui vraiment donne le ton à une série. Et quand que tu changes de ville, tu changes d'aréna, c'est vraiment une vague d'énergie qui peut changer de côté. Et pour ça, les matchs d'hier, oui, c'était important. Le match de le match numéro 2 de demain ou samedi soir, oui, sont importants. Mais le troisième match de la série, ça, d'après moi, c'est le match qui donne le ton à une série de ces matchs. Et c'est vraiment là que je commence à voir si une équipe est dans le trouble ou non. Après un premier match, écoute, Vegas perd hier, ils ont été pourris, pas plus dur que ça. Nashville perd hier, c'est pas plus dur que ça. Tampa perd hier, pas plus dur que ça. Okay. On continue à faire notre job. Mais là, si Tampa, même s'ils gagnent le deuxième match à Tampa et perdent le troisième match à Columbus, là, t'es dans le trouble. Okay. Parce que le troisième match est très important dans les séries.
OK. Comment tu analyses la situation des Flames de Calgary en termes de gardien de but? Comment une équipe comme les Flames, qui a dominé la conférence de l'Ouest, peut être établie favorite alors qu'aller jusqu'à il y a à peu près trois quarts d'heure, on ne savait pas ça allait être qui leur gardien pour ce soir?
Je suis sûr que les gardiens le savaient hier, peut-être même avant, qui allait être dans le filet pour les Flames et... Moi, j'aurais été avec David Riddick. Écoute, je pense que Riddick, c'est un gars qui lui donne un peu plus de stabilité, un peu plus de constance dans le filet.
Okay.
Il a très bien fait cette année. Mike Smith, c'est un vétéran. Il t'en joue des grosses et il t'en joue des pourrites. C'est vraiment là le problème de Mike Smith. Il donne des très mauvais buts. Il fait de très gros arrêts. Mais dans les séries éliminatoires, surtout lorsque tu joues contre une équipe comme Colorado, t'as besoin d'un gardien de but qui va être conscient, qui va te donner la chance, surtout comme les Flames de Calgary, qui va donner la chance à Johnny Gaudreau, à Sean Monahan, à Matthew Tkachuk, à Giordano, à ces gars-là, de ne pas se retrouver à un déficit de deux ou trois buts en première période, mais un gardien de but qui va juste être normal, là, sans te voler la vedette, mais sans te perdre un match non plus. Bill Peters a décidé d'aller avec Mike Smith. Peters, c'est un gars qui, évidemment, connaît la job de gardien de but et aime beaucoup à se servir de ses vétérans. Alors, c'est pour ça qu'il a pris cette décision-là. Mais, écoute, ça peut changer le match numéro 2, ça peut changer le match numéro 3. D'après moi, avec les Hurricanes de Caroline et les Flames de Calgary, on va voir les deux gardiens de but dans les séries cette année.
OK, avant de te laisser, je veux que tu me parles des Sabres de Buffalo. On a congédié Phil Housley. Phil Housley, c'est vraiment une icône de cette organisation-là, l'ancien défenseur toute étoile. 2 ans comme entraîneur-chef, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui manque aux Sabres pour que ça devienne une équipe de série dans la Conférence de l'Est?
Ben, ça le prend un entraîneur avec beaucoup d'expérience. C'est une équipe quand même jeune, avec Jack Eichel, Sam Reinhardt, Rasmus Dahlin. Ils ont beaucoup de jeunes, mais ça le prend quelqu'un qui a de l'expérience, qui est capable de changer et de s'adapter avec l'équipe et à différents systèmes. Je pense que le problème avec Phil Housley, c'est qu'il avait une idée à comment diriger son équipe, un peu comme les Predators de Nashville sont dirigés par Peter Laviolette, parce que Phil Housley était là avec Nashville comme adjoint il y a 3 ans. Mais quand même, je pense que le style de jeu, surtout la structure défensive de Phil Housley, n'était pas compatible avec les Sabres de Buffalo et les joueurs qui font parmi là, de l'alignement des Sabres. Alors, ça prend un entraîneur qui est capable de s'ajuster, s'adapter et de peut-être changer sa structure dépendamment de l'équipe que tu as. Et je pense que Phil, c'était le problème en fin de ligne. Il n'a pas été capable de s'ajuster avec les joueurs qu'il y avait dans l'alignement avec les Sables de Buffalo.
Parfait. Tu vas revenir à l'analyse avec les Sables l'an prochain à la télé, Martin?
Oui, j'ai une autre année de contrat. J'espère être là pendant plusieurs années. J'aime beaucoup l'équipe avec qui on travaille, avec Rob Ray, Rick Jenneret, Dan Dunleavy, Brian Duff, qui est... la personne avec qui je travaille pour l'avant-match, l'après-match.
Okay.
Et l'équipe, là, les Sabres, c'est l'équipe qui m'a repêché en 95.
Ouais.
J'ai fait de Buffalo ma ville, la ville qui m'a accueilli là, lorsque j'avais juste 20 ans. Alors, j'aime beaucoup le travail qu'on fait avec les Sabres, la télévision et MSG.
Parfait. Ben, gros merci de nous avoir parlé. Puis bonne continuité dans ce travail-là. Puis entre-temps, on va te regarder à TSN.
Bon, ben, je te remercie, Dan. Bonne série.
Ouais, à toi aussi. À bientôt. Martin Biron, analyste hockey pour TSN. Évidemment, vous pouvez le voir quelquefois à RDS. Il travaille également sur la retransmission télé des matchs des Sabres de Buffalo. Il vit d'ailleurs à Buffalo avec sa famille.